y a deux images. La première, pour, mettons, le très grand public, ça serait son dernier succès couvert d'Oscar, c'est Out of Africa au milieu des années 80. Pour les cinéphiles, ou pour la mémoire remonte un peu plus loin, c'est plutôt le second âge d'or, on va dire, du cinéma américain des années 70, avec la série de films en particulier qu'il a réalisé avec Robert Redford, Jeremiah Johnson, Nos plus belles années, Les trois jours du Condor, associé vraiment à cette période, c'est-à-dire d'un cinéma à la fois inquiet des dérives de l'Amérique au moment du Vietnam et du Watergate, et en même temps encore idéaliste et libéral au sens américain, c'est-à-dire progressiste dans sa vision politique. Ce qui est intéressant chez Pollack, c'est que c'est peut-être une sorte de romantique attardée. Un film comme Havana, qui est une sorte de remake de Casablanca dans le Cuba de la révolution castriste, paraît à la fois un film très obsolète à la période où il a été fait, c'est-à-dire au tout début des années 90, et en même temps montre peut-être la véritable nature de Pollack, c'est-à-dire d'une certaine manière, oui, une sorte de cinéaste attaché à un certain idéalisme. De ce point de vue-là, je pense que c'est un cinéaste extrêmement sincère et que c'est ça qui le rend aussi si attachant.
Alors, autre qualité ou défaut, je ne sais pas, on a dit que c'était l'un des réalisateurs les plus féconds du cinéma d'après-guerre, mais aussi qu'il s'était essayé à tous les genres. Justement, est-ce que quand on était un réalisateur, est-ce que c'est bien vu ça?
Effectivement, il est difficile à rattacher à un genre précis, donc davantage effectivement à certains idéaux, à certaines valeurs et à certains acteurs comme Redford. Je pense que de ce point de vue-là, oui, c'était peut-être pas l'un des plus féconds, mais certainement l'un des plus éclectiques. Bon, on pourrait après trouver des genres qu'il n'a pas abordés, mais disons que on pourrait le rattacher assez bien à une certaine tradition du cinéma des studios hollywoodiens, mais d'une période où les cinéastes étaient beaucoup plus prolifiques, enfin où ils étaient sous contrat, où ils pouvaient faire beaucoup plus de films. Et je pense qu'effectivement, il en souffre peut-être un peu. En même temps, je pense qu'il y a une grande cohérence malgré tout dans son œuvre, à part un ou deux films alimentaires, dans son approche, là encore, idéaliste et éthique, en fait, des choses.
Lui, il était issu d'une famille d'immigrants juifs et russes. Est-ce que vous pensez qu'il a été influencé par sa vie personnelle ?
Disons que son parcours est intéressant, c'est le côté immigrant de la deuxième génération, un côté provincial, élevé dans l'Indiana, et qui après... C'est un jeune homme qui monte à New York, qui passe par le théâtre, d'abord comme acteur, puis par la télévision comme acteur et ensuite comme metteur en scène, et avant d'accéder au cinéma. Donc il y a une sorte comme ça d'ascension, là encore, qui correspond bien à au côté un petit peu fitzgeraldien peut-être de certains de ses héros. Et en fait, c'est surtout sur le tard, alors qu'il était moins prolifique comme cinéaste, qu'on l'a vu davantage comme acteur et dans ses rôles les plus mémorables, donc dans les années 90. C'est très frappant parce que les deux rôles qu'on retient de lui, je pense, comme acteur, c'est Marié et femme de Woody Allen et Eyes Wide Shut de Kubrick. Et dans les deux cas, c'est un personnage assez peu sympathique, très inquiétant dans Kubrick, ordonnateur d'orgie, peut-être assassin. Et dans Marié et femme, on a donc cet homme vieillissant qui quitte sa femme pour prendre une jeune maîtresse. Et dans les deux cas, j'ai l'impression qu'il prend un malin plaisir. Il y a une sorte de jubilation d'acteur à le voir ainsi jouer des personnages à l'opposé justement de tout romantisme.